Bonsoir à toutes et à tous. C'est bel et bien un acte terroriste qui a été commis jeudi au sein de la préfecture de police de Paris. Le procureur antiterroriste a décrit de façon très détaillée le passage à l'acte de cet agent informatique de 45 ans qui a tué 4 de ses collègues jeudi à midi après avoir acheté 2 couteaux métalliques. Pourquoi sa radicalisation n'a-t-elle pas été détectée et signalée alors qu'il travaillait au sein même de la direction du renseignement de la préfecture de police? De quelles informations disposait-il d'ailleurs? Comment sécuriser et rassurer des policiers qui sont devenus des cibles? C'est le sujet de cette émission de Ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir « Tuerie de la préfecture, un acte terroriste ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Pelletier, grand reporter au Parisien, auteur de « Où sont passés nos espions, petits et grands secrets du renseignement français ». C'est aux éditions Albin Michel. Mathieu Delahousse, grand reporter à l'Obs. Je rappelle votre dernier livre, « La chambre des coupables, la justice face aux djihadistes français ». C'est aux éditions Fayard. Béatrice Brugère, secrétaire générale du syndicat Unité Magistrats FO. Vous avez été juge antiterroriste et vous venez de soutenir un mémoire sur le nouveau parquet antiterroriste. Et enfin, Driss Aït Youssef, vous êtes docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité et vous êtes président de l'Institut Léonard de Vinci. Éric Pelletier, on a entendu le procureur qui, je dois le dire, a confirmé toutes les informations qui étaient ce matin dans votre journal, sauf que maintenant le procureur les a affirmées, les a confirmées. On peut le dire, c'est un acte terroriste, ça y est.
Oui, c'est maintenant la piste qui est privilégiée. Après, il faut le dire, 24 heures de rumeurs, d'atermoiements, peut-être de déclarations un peu prématurées. On a aujourd'hui la certitude que la personne qui est passée à l'action, donc qui est un informaticien au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police, a d'abord, un, prémédité son acte, et puis ensuite était proche des mouvements radicaux et s'est radicalisé au fil du temps, alors même qu'il était entré dans cette institution en 2003. Il semblerait qu'il se soit converti en 2008 environ, ce qui n'est évidemment pas un signe de radicalisation. Il faut bien être précis sur les termes qu'on emploie. Il est devenu musulman en 2008 environ, mais ensuite tout son itinéraire personnel l'a amené à fréquenter des gens qui étaient des imams notamment salafistes, radicaux, et puis ces signaux faibles, voire forts, n'ont pas été détectés par sa hiérarchie.
Mathieu Delahousse, ce qui est très inquiétant, c'est qu'il travaillait au sein de la direction des renseignements de la police de Paris, de la préfecture de Paris. C'est grave, c'est quand même le loup dans la bergerie.
Oui, alors il y a l'aspect du risque terroriste, mais il y a l'aspect très scénique de cet attentat. Le désarroi et le silence qu'il y avait sur l'île de la Cité quand ça s'est déroulé fait que ça s'est passé dans la cour qui est la cour mythique de la préfecture de police de Paris, où retentit chaque mois d'août la sonnerie aux morts pour la libération de Paris, où d'habitude c'est un cercle très sécurisé. Et effectivement, c'est là que la fusillade survient. Ça, c'est pour l'aspect physique, spectaculaire, facile. Mais effectivement, quand on apprend l'identité, ça va effectivement très vite, parce que tout le monde connaissait finalement au sein de cette communauté, dans la famille police, on en parlera sans doute, cet homme, pour des particularités d'ancienneté, des particularités physiques.
Il y a 13 ans, effectivement, hein, qu'il travaillait au sein
de... Il était là depuis 2003. Ouais. La réalité, c'est que cet homme est à la direction du renseignement de la préfecture de police. C'est les espions de la préfecture de police de Paris. C'est eux qui ont une partie de la surveillance des islamistes dans leur portefeuille. C'est eux qui, au même titre que la DGSU, que la DGSE ou que la DRM, ont un portefeuille avec niveau 1, niveau 2, niveau 3 de personnes à surveiller. Et tout ça, ce sont des fiches, ce sont des écrans, et c'est un bastion, dans le bastion, si l'on peut dire. C'est un service sécurisé dans la préfecture de police de Paris. Donc, ça rejoint deux questions. C'est d'une part la sécurité pour lui à l'intérieur, et d'autre part, le fait que le terrorisme soit véritablement partout. Les forces de police, depuis 2015, comme la justice, se sont habituées à avoir des passages à l'acte extrêmement soudains. Mmh. Celui-ci l'est en particulier, puisque sur les caméras de surveillance, on voit cet homme arriver au travail un peu après 8 heures, monter, ne pas donner de signes de nervosité particulièrement, et ensuite passer à l'acte pour ce qu'on pouvait croire un acte de folie, et finalement, comme le vient de le dire Jean-François Ricard, le procureur national terroriste, un acte qualifié de terrorisme.
Voilà, et avec des scènes d'une extrême violence, a précisé le procureur. Driss Aït Youssef, il était habilité secret défense. Ça veut dire quoi, être habilité secret défense ?
Secret défense, c'est une habilitation que l'on donne à un individu en raison de la mission qu'il a, c'est-à-dire pour manipuler de la donnée. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez trois types d'habilitation : confidentielle défense, secret défense et très secret défense. Lorsque vous avez cette habilitation, c'est une habilitation pour une durée déterminée qui vise une personne pour une fonction précise. C'est-à-dire que dans le cadre de la fonction, l'individu va manipuler de la donnée classifiée. Et donc, il y a trois types de causes pour lesquelles on vous retire cette habilitation, lorsque, évidemment, c'est une durée de validité d'environ 5 ans. Ensuite, lorsque vous quittez la fonction, parce que quand vous quittez la fonction, vous n'avez plus à partir avec cette habilitation. Ou alors, lorsque vous faites l'objet d'un retrait de cette habilitation en raison d'un manquement à une obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on vous retire cette habilitation, c'est tout à fait discrétionnaire. C'est-à-dire que l'administration n'a pas à justifier les raisons pour lesquelles on vous retire cette habilitation. Par exemple, lorsque vous consultez un fichier, sur un dossier sur lequel vous ne travaillez pas, vous n'avez pas le droit, donc vous pouvez faire l'objet d'une convocation et d'un retrait immédiat. Ce qui ne signifie pas pour autant que vous êtes viré, on vous retire cette habilitation et vous êtes reversé dans un service pour lequel voilà, vous faites d'autres tâches sans lien avec la mission Secret Défense.
Et sa sympathie avec les mouvements radicaux justifiait évidemment qu'on lui retire cette habilitation Secret Défense, j'imagine.
Il y a plusieurs indications, a priori. Il y a, paraît-il, un procès-verbal qui indique effectivement qu'il se serait félicité des attentats de Charlie Hebdo. Il y a effectivement un comportement qui aurait dû attirer l'attention, qui l'aurait refusé de serrer la main. Une enquête peut-être mal faite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de la préfecture de police, vous avez un fonctionnaire de sécurité de défense. Donc il est en charge, lui, d'attribuer ou de retirer cette habilitation dès lors qu'il y a un problème. Au sein des différentes administrations, y compris dans des entreprises, parce que vous avez aussi des salariés dans des sociétés privées qui sont habilités secret défense, dès lors qu'il y a un doute, vous êtes immédiatement effectivement sanctionné, donc on vous retire cette habilitation.
Sans qu'on ait à se justifier sur le pourquoi du retrait de cette habilitation.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contradictoire.
Voilà. Béatrice Brugère, alors c'est le parquet national antiterroriste qui est saisi de l'affaire depuis hier. Ça change quoi? Quelles sont ses méthodes? Est-ce qu'il a beaucoup plus de pouvoir que la justice classique?
Alors, ça reste la justice, hein, le parquet national antiterroriste, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que avant, on avait une section qui était spécifique, qu'on appelait C1, hein, pour ceux qui connaissent, qui était dans le parquet de Paris. Depuis le mois de juillet, ça a été une nouveauté et ça a été une volonté du président de la République de créer ce qu'on appelle une task force judiciaire pour faire le parallèle avec ce qu'on a appelé la task force du renseignement qui a été créée, enfin qui a été réorganisée à l'Élysée. Et en fait, qu'est-ce que ça traduit dans les faits, c'est qu'au lieu qu'on ait une équipe de parquetiers qui travaille sous l'autorité du procureur de Paris, on a créé une structure autonome, un peu comme le parquet national financier, avec un procureur qui sera dédié qu'à la question terroriste, parce qu'on a tiré les leçons du fait que les enquêtes étaient de plus en plus nombreuses et qu'un procureur devait être dédié juste à cette tâche. Donc, ça change rien sur le plan, strictement de la procédure. Une fois que c'est qualifié terroriste, on a toute la procédure classique qui est dérogatoire d'ailleurs sur le temps des gardes à vue, sur les enquêtes.
Elle est toujours en garde à vue d'ailleurs, l'épouse
tout à fait. Donc le fonctionnement, n'est pas modifié. C'est l'organisation qui a été modifiée. Mais ce qui est intéressant, si je puis dire, dans cette affaire qui est quand même dramatique, c'est que c'est la première fois depuis la création du parquet national antiterroriste, qu'il est saisi comme ça, qu'il se saisit d'une affaire. On avait déjà eu un précédent à Villeurbanne, je sais pas, il y a quelques semaines, où quelqu'un avait égorgé dans le métro avec une arme blanche des personnes qui se trouvaient là. Et là, le parquet national antiterroriste n'avait pas jugé bon de se saisir. Donc ce qui est intéressant, c'est la doctrine qui va se dégager, c'est-à-dire les critères qui vont se dégager à partir de cette première affaire.
Beaucoup s'étonnent qu'il ait fallu attendre vendredi soir pour que le parquet national antiterroriste soit saisi ou se saisisse. Vous-même, vous étiez étonné en disant « mais pourquoi ?» n'est-il pas sur cette affaire ?
Alors, c'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les faits, c'est les magistrats qui les qualifient au vu de ce qu'ils ont comme premier indice.
Ouais. Et
comme,
mais il peut se saisir et se dessaisir.
Non. Justement, non. Il prend le temps, on va dire, le temps qu'il prend est nécessaire parce que c'est compliqué de changer de qualification. C'est-à-dire que quand on saisit d'une qualification terroriste, c'est quand même très compliqué de dire bah, après on s'est trompé, finalement c'est pas terroriste. Donc il préfère, prendre le temps de faire un environnement, hein, c'est ce qui a été fait avec des premières gardes à vue. Et à ce moment-là, parce que ce qui fait que ça devient terroriste, c'est l'intention, c'est-à-dire, et l'intention... Et là, pour le coup, la personne étant décédée, elle sera difficile à récupérer. Donc l'intention, elle est déduite de tout ce qu'on peut trouver. Et qu'est-ce qu'on a trouvé? Eh bien, dans son téléphone, des liens avec des salafistes, etc.
Des une SMS, radicalisation, des témoignages. Voilà.
Et ça va très vite, en fait. Mais quand on parle de la communication, par contre, là, il y a peut-être un autre sujet. Il faudrait peut-être pas trop se précipiter, justement, sur la communication.
On va y revenir. Alors, justement, rappel des faits. Donc, des SMS troublants, des liens avec la mouvance salafiste et un comportement suspect. Autant d'éléments qui ont poussé les autorités à confier l'enquête au parquet national antiterroriste. Reste beaucoup de zones d'ombre et surtout une polémique. Comment un agent habilité secret défense a-t-il pu ainsi basculer au sein même de la préfecture de police? Rappel des faits avec Paul-Rémy Barjavel et Victoria Rouxel.
Michael H., 45 ans, né à Fort-de-France, en Martinique, converti à l'islam depuis une dizaine d'années. Employé de la préfecture de police de Paris depuis 16 ans. Comment cet agent habilité secret défense a-t-il pu basculer dans le terrorisme? Jeudi en début d'après-midi, la préfecture de police de Paris est devenue une scène de crime. Le quartier est totalement bouclé. Michael H. vient de tuer trois policiers et sa responsable de service. Quelques minutes plus tard, il est abattu par un jeune policier affecté depuis 6 jours à la préfecture.
On a vu l'assaillant avec le couteau et le policier qui lui disait « Jetez votre arme, jetez votre arme ». Il y a eu deux sommations. Et à ce moment, il s'est dirigé vers le policier. Et c'est à ce moment, voilà, avec le couteau. Et c'est à ce moment que le policier a tiré.
Les fonctionnaires de la préfecture évacués sont sous le choc.
C'est triste pour nos collègues parce que voilà, c'est quand même si on se côtoie pas tous les jours, c'est quand même des collègues.
Comme quoi, nous sommes à l'abri de rien et même à la préfecture de police. Hein.
Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, prend la parole sur place quelques heures après l'attentat.
Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillait avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte.
Dans le même temps, une vaste opération de police est lancée à Gonesse, dans le Val-d'Oise. L'appartement de Michael H. est perquisitionné, son épouse placée en garde à vue. L'enquête révèle l'achat de 2 couteaux le matin même. Il aurait également échangé des SMS avec sa femme, des messages à connotation religieuse. Peu avant l'attaque, Michael H. aurait également évoqué son couteau. Elle lui aurait répondu « Dieu te jugera ». L'analyse poussée du portable du meurtrier révèle aussi des liens avec un prédicateur d'une mosquée du Val-d'Oise, connu des services de renseignement.
Plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade et sont plusieurs témoignages des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015.
Comment un agent habilité secret défense a-t-il pu se radicaliser ? Comment a-t-il pu passer sous les radars au cœur même d'un des services de renseignement français? Les syndicats de police s'interrogent.
Comment se fait-il que personne n'ait pu détecter en amont cette potentialité de radicalisation? Il y a eu des failles à tous les niveaux.
Et l'affaire devient politique. L'opposition de droite réclame une commission d'enquête parlementaire sur cette attaque. Certains élus, les Républicains, exigent même la démission du ministre de l'Intérieur.
Le ministre de l'Intérieur nous a dit dans les premières minutes « Circulez, il n'y a rien à voir ». Monsieur Castaner a-t-il voulu cacher la vérité ou bien est-il seulement incompétent? Il est discrédité pour poursuivre sa mission.
La garde à vue de l'épouse de l'assaillant a été prolongée de 48 heures cet après-midi. L'enquête doit maintenant se poursuivre pour déterminer plus précisément la personnalité de Michael H.
Alors, question téléspectateur. Si même la préfecture est attaquée, sommes-nous vraiment à l'abri? Béatrice Brugère, c'est vrai qu'en termes de symbole, c'est terrible. Ce devrait être un endroit ultra sécurisé.
Alors, je pense que là, on est vraiment sur un tournant, que c'est une des plus graves attaques qu'on ait connues depuis le Bataclan à cause de ce symbole. Mais je voudrais simplement juste sans être trop longue, rappeler quelque chose. Il y a en effet un effet de sidération. On se dit au cœur nucléaire, j'allais dire du renseignement, on est trahi. Sauf qu'il faut quand même se rappeler, et l'armée le sait très bien, puisqu'elle a des services qui travaillent là-dessus, mais la DGSE aussi, ça fait partie aussi de la stratégie des terroristes d'infiltrer justement ces endroits qui sont des endroits extrêmement stratégiques pour déstabiliser encore plus l'État. On avait des déclarations d'un imam d'Al-Qaïda qui avait dit en 2007 déjà, un jour vous verrez tous ces musulmans qui sont adeptes de cette, j'allais dire, doctrine salafiste se lever et vous assassiner dans la police et dans l'armée. Et je rappelle simplement aussi qu'on a eu des rapports quand même sur la radicalisation dans les services publics qui sont déjà sortis depuis quelques années. Donc c'est pas un phénomène complètement nouveau. On sait que ce sont des cibles privilégiées et on peut quand même se poser la question, et je pense qu'elle va se poser dans les jours qui suivront, de la question politique. Qu'est-ce qu'on a fait de ces rapports? Qu'est-ce qu'on a fait de ces informations? Moi, je me souviens même d'un article de Thibault de Montbrial qui date de 5 ans ou 4-5 ans où il expliquait déjà qu'on avait dans les services de l'armée et de la police ce qu'on appelle le blue on blue, c'est-à-dire des gens qui sont de votre service qui vont venir vous attaquer parce qu'il y a une montée de la radicalisation. Sauf qu'il y a 4-5 ans, on en dénombrait quelques-uns et qu'aujourd'hui, la question qui va falloir se poser, c'est exactement qu'est-ce qu'on a fait depuis ces années. Donc cette question, elle est politique maintenant aussi, elle n'est pas que juridique.
On peut imaginer que cette personne ait été contactée parce que précisément, elle travaillait au sein du service informatique de la direction des renseignements de la préfecture de police.
Moi, personnellement, à ce stade de l'enquête, je n'ai rien à dire. Ouais. Mais en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui descend, qui est complètement incongru, puisque ça participe aussi de déclarations qui ont été faites. Et on a les mêmes choses dans les prisons, d'ailleurs. Hein. Dans les prisons, on pourrait en parler pendant longtemps, mais on a aussi des stratégies pour attaquer les personnels pénitentiaires et s'infiltrer. Voilà. Enfin.
Oui, Éric Pelletier.
Non, simplement et assez rapidement, je serais quand même prudent sur le terme d'infiltration. Pourquoi? Parce que ça
il
fait déjà
auparavant.
Je crois. Il faudra voir ce que détermine l'enquête, c'est-à-dire est-ce qu'il rentre radicalisé au sein de la préfecture de police avec la volonté, plus tard, comme agent dormant, si on fait le parallèle avec l'espionnage, de frapper, ou est-ce que comme certaines couches de la population, il devient, parce que son parcours personnel est fragilisé, parce qu'il est en difficulté vis-à-vis de sa hiérarchie, il est plus sensible à un certain discours récurrent, notamment sur les réseaux sociaux et avec les imams salafistes qu'il va rencontrer, et à ce moment-là, il bascule. Ouais. Et moi, les quelques exemples que j'ai en tête, qui sont fort heureusement pas du même acabit, mais j'ai travaillé sur la radicalisation au sein des forces de l'ordre, plus précisément au sein de la police, et on a eu en main avec Christophe Dubois il y a quelques années, vous l'avez rappelé lorsque nous avons écrit le livre « Où sont passés nos espions ?», une note, et il faut savoir qu'aujourd'hui, l'administration, évidemment la police, pointe les comportements qui sont des entorses à la laïcité. Ce n'est pas du terrorisme, ce sont des entorses à la laïcité. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qui est dans une voiture de police sérigraphiée va arrêter sa voiture de police pour aller acheter un niqab à sa femme et vient remonter dans sa voiture de police et écouter des chants religieux. Donc ça, c'est une alerte, ça, c'est un indice. Il y a une femme qui s'essuie les mains sur son pantalon d'uniforme, disant « saleté d'uniforme de la République ». Nouvelle alerte. Ce ne sont pas des cas qui sont légion. Mais ce sont des cas qui existent, et pour citer des chiffres, entre 2012 et 2015, il y avait à peu près 17 cas.
Alors là, en l'occurrence, il aurait, dit-on, refusé d'embrasser des femmes. Alors ça, c'est pas forcément, enfin, de faire la bise. Je ne sais pas si on peut considérer ça comme une alerte.
La modification du comportement est une alerte.
Alors on revient. Et que sait-on sur cette journée? On a dit qu'il avait acheté des couteaux en céramique. Finalement, ce sont des couteaux métalliques, 20 cm et un couteau à huîtres.
Mais ça, c'est effectivement les détails très matériels que l'enquête apporte. Oui, la chronologie va les montrer. Mais je pense qu'ils ont une signification très forte. C'est parce qu'ils montrent qu'est-ce que c'est que le terrorisme aujourd'hui. Effectivement, quand quelqu'un passe à l'acte et vient égorger plusieurs personnes. Toutes les hypothèses sont ouvertes. Et en fait, ce qui s'est passé au niveau de la procédure, je pense qu'on reviendra sur autre chose, c'est la confusion politique et judiciaire qui a entouré cette affaire, qui est assez incroyable. Mais en termes de procédure, ce qui se passe au départ, c'est une ouverture de flagrance sur une enquête qui n'est pas terroriste. Et tous les mobiles étaient possibles. Il y aurait pu effectivement avoir une dispute avec l'une de collègues de boulot, il y aurait pu avoir une amourette avec une autre collègue, il y aurait pu avoir indifférent. Ouais. Mais le terrorisme, dans le code pénal, c'est très précis. Le code pénal, c'est pas de s'en prendre à son voisin, c'est pas du terrorisme. Le code pénal, d'avoir une amourette qui se transforme en crime passionnel, c'est pas du terrorisme. Le terrorisme, c'est défini très précisément, c'est commettre une infraction, que ce soit d'ailleurs un délit ou un crime, ayant pour but de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Le texte, il est clair, et c'est ça qu'il faut, je pense, expliquer ce soir aux gens qui peuvent s'étonner des atermoiements sur les poursuites des deux procureurs là-dessus. C'est qu'aujourd'hui, le mobile principal de cet auteur, qui est aujourd'hui décédé, c'était de provoquer la terreur dans un lieu symbolique face à des gens qui étaient fonctionnaires de police. Après, peut-être se sont greffées d'autres motivations, la jalousie, la contrariété, tout ce que vous voulez. Les exemples, on parlait effectivement des cas de djihadistes qu'on a pu étudier. Hélas, les procès terroristes montrent que, comme des strates successives de haine et de violence, se succèdent différentes motivations. Il y a un exemple que tout le monde a à l'esprit et qui peut peut-être ressembler à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ce qui s'était passé en juin 2015 à Saint-Quentin-Falavier, où un employé d'une société avait tué son patron. Il l'avait tout de même égorgé et avait mis sa tête sur un grillage. Le conflit professionnel n'avait pas été retenu comme la principale motivation. Procureur Molins, à l'époque, juste pour terminer, parce que je pense que c'est important de parler de cette espèce d'hybridation, avait retenu le fait que c'était un acte de vengeance sublimé par le terrorisme, parce que cette dimension existe aussi.
Mais pour revenir sur ce cas précis, donc, quand on travaille au service informatique de la direction des renseignements de la préfecture de police, on est surveillé régulièrement ? Comment ça se passe ? Et il paraît que certains collègues ont signalé que des comportements suspects de la part de cet assaillant.
Alors, ce qu'il faut rappeler aussi, c'est que ça a été dit, mais je voudrais peut-être ajouter quelques points. Pourquoi cette affaire, elle est exceptionnelle ? C'est vrai, d'abord, parce qu'il y a 4 policiers qui ont été assassinés. Ensuite, c'est le lieu. C'est la préfecture de police. Ensuite, c'est l'individu, qui est un collègue, un fonctionnaire, qui a 16 ans d'ancienneté. Et ensuite, c'est le statut de l'individu qui disposait d'une habilitation secret défense. Là où, effectivement, cet individu, on ne le sait pas encore, parce qu'on verra ce que dira l'enquête, il a accès à de l'information parce que, manifestement, il était employé à une tâche de support et que, par conséquent, il disposait, s'il a cette habilitation, de mots de passe pour pouvoir entretenir le matériel. Donc, il faudra voir si, effectivement, il a pu télécharger, puis diffuser auprès d'individus des informations qui sont classées secret défense. Donc, c'est un drame pour cette administration.
Comme, par exemple, l'adresse personnel des policiers ou quel type d'informations pourrait-il avoir ?
C'est toutes les informations qui, ce sont des notes qui diffusent que les agents du service de renseignement rédigent des informations qu'elles collectent, soit de services étrangers, soit de la DGSE, soit de la DGSI. C'est toutes des informations qui intéressent la sécurité dans la capitale.
Donc en lien avec des affaires terroristes notamment.
En lien en particulier avec les affaires terroristes, vous avez aussi du travail illégal et vous avez aussi de la délinquance. Voilà, donc vous avez ces informations. Ce qui pose une difficulté par rapport à ce qui a été dit, ce sont évidemment, vous avez un certain nombre de fonctionnaires dont on dit qu'ils sont radicalisés et donc avec des comportements qui ne sont pas forcément compatibles avec l'exercice de leurs fonctions. Ce qui pose là un vrai problème, c'est qu'on a un individu dont on savait a priori, c'est l'enquête qui devra le confirmer, qu'il avait des comportements qui devaient faire prendre conscience à la hiérarchie qu'il y avait une certaine forme d'incompatibilité avec sa fonction. Ce qui est différent, j'ai envie de dire, peut-être d'un autre fonctionnaire dans une administration qui, effectivement, a en charge peut-être la production de documents administratifs, c'est tout aussi grave, j'ai envie de dire, pour la moralité de l'individu, pour la cohésion de notre pays. Là, on touche au secret, à la sûreté et à la sécurité de la nation. C'est une affaire, c'est pour ça que c'est une affaire extrêmement grave et à l'impact, le Premier ministre en particulier, parce qu'il est responsable du secret de la défense nationale. Ce n'est pas une petite affaire en soi.
Comment as-tu pu laisser passer le fait qu'il aurait dit « bien fait » lors des attentats du Bataclan, voilà, et on le laisse, secret habilité défense, au traité d'affaires terroristes.
Si on s'arrête sur les faits précis, Éric aujourd'hui, Gilles, qui sont connus parce que documentés dans le dossier. On a la séquence, la scène de crime qu'on a rappelée avec la violence extrême et notamment ces coups de couteau portés à la gorge des fonctionnaires, ce qui peut, mais ne suffit pas, laisser penser à une hypothèse djihadiste dès le départ. On a aussi maintenant.
C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de mimer les scènes de décapitation dans les vidéos de l'État islamique.
C'est une hypothèse, c'est une hypothèse. Peut-être un égorgement, et en tout cas la volonté de frapper sa première victime au cou. Et ensuite, de s'attaquer à des gens en uniforme qu'il croise dans l'escalier. Mais aujourd'hui, on sait, en tout cas, on a un témoignage qui est couché sur procès-verbal et qui provient d'un de ses collègues. Que dit ce témoignage? Il dit qu'au moment des attentats de Charlie Hebdo, Charlie Hebdo, c'est sur l'attentat lui-même, 12 morts en janvier 2015, ce personnel membre de la direction du renseignement de la préfecture de police et donc qui intègre une unité qui est chargée de lutter contre l'islam radical, se réjouit des meurtres, qui viennent, des assassinats qui viennent d'être commis et dit c'est bien fait pour eux. Ça, c'est le dossier qui le dit. On a un témoignage. Il faudra le documenter, le vérifier, etc. Ce même témoignage dit que l'information a été transmise à la hiérarchie. Semble-t-il, on ne retrouve pas trace de signalement. Mais si on prend un peu de distance, et pour rebondir sur ce que vous disiez, cet incident-là, le même, à l'Éducation nationale, il crée un signalement, ça remonte, et automatiquement, il y a une sanction disciplinaire, une convocation, qu'il s'agisse d'un enseignant, qu'il s'agisse d'un directeur d'école, ou que sais-je. Et il y a des exemples. Là, ça se passe au sein de la direction du renseignement de la préfecture de police en charge de la lutte contre le terrorisme, et il ne se passe rien. Donc, il va falloir clarifier les choses et voir s'il n'y a pas eu des dysfonctionnements, au moins.
Apparemment, à vous entendre, il y a un grave loupé, là.
Écoutez, quelqu'un qui se rend, qui est en contact avec des imams qui sont surveillés par la DGSI, qui se rend lui-même et qui change d'habillement et d'accoutrement et qui se rend en djellaba au contact de ces gens-là, ça doit attirer l'attention d'un service de renseignement, me semble-t-il.
Comment se passe l'enquête? Et alors, on est en train de retrouver le fait qu'il est dans une mosquée de Gonesse, où le directeur de la mosquée, nous expliquons, avait recruté un imam salafiste parce que ça fait venir du monde et que ça remplit les caisses de la mosquée, c'est ce qu'on dit. Et que d'ailleurs, cet imam était en procédure d'expulsion. Là aussi, on voit qu'il y a des manquements, il y a des procédures qui ne sont pas exécutées.
Là, on touche le problème qui a déjà été évoqué à multiples reprises, des sources d'endoctrinement. Alors, à un moment, on s'est focalisé sur la prison, comme si c'était presque l'unique source d'endoctrinement. On revient sur, j'allais dire, du plus classique, et on s'aperçoit qu'elles sont multiples, ces sources. Et en effet, ces mosquées, alors je ne connais pas celle-là, hein, donc je suis prudente, mais en tout cas, ce que vous dites, ces mosquées qui sont salafistes, leur but, c'est évidemment de faire du prosélytisme. Donc, tant qu'on aura comme ça sur notre territoire, et ça a été un enjeu, hein, des dernières lois de sécurité, de fermer ces mosquées, je crois qu'aujourd'hui, il va falloir quand même qu'il y ait un avant et un après, parce que c'est vraiment, cette affaire, elle est extrêmement grave, pour plein de raisons qu'on vient d'évoquer, mais et il faudra vraiment que là, il y ait une vraie volonté politique de s'attaquer à toutes les sources de prosélytisme, dont on voit très bien qu'elles peuvent toucher des personnes extrêmement différentes. Et après l'état de sidération, il va quand même falloir faire un bilan et en tirer vraiment les conséquences. Et les conséquences, elles ne sont pas judiciaires. Hein. L'enquête, elle va être très bien faite. Elles ne sont pas journalistiques, puisque les journaux vont faire leur travail aussi. Elles sont politiques aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va falloir, en effet, qu'on tire peut-être des enseignements de peut-être, hein, je dis parce que je suis prudente quand même, hein, il faut quand même toujours être prudent, de certains dysfonctionnements, on verra. Mais là, il y a aussi une question politique maintenant d'orientation extrêmement forte qu'il va falloir prendre.
Mais Mathieu Delahousse, c'est vrai que c'est terrible de se dire on va spécialement embaucher un imam radical parce que ça va faire venir, alors ils disent notamment des jeunes, et ça va empirer les caisses. Il y a une volonté délibérément d'aller vers le salafisme.
Alors cet aspect-là, pour l'instant, là, sur l'enquête, il est quand même très provisoire.
C'est un raisonnement qui est à l'œuvre.
C'est évidemment un raisonnement qui existe et qui a été documenté sur ces mosquées-là. Le seul souci, c'est quelle est la part sur le passage à l'acte. Effectivement, est-ce que c'est cette fréquentation? Est-ce que c'est un incident dans son existence? Et en réalité, toutes les affaires de terrorisme qui ont pu être expertisées avec des auteurs vivants ou morts, parce que ce qu'il faut dire aussi, et c'est quand même l'une des grandes particularités de ces procédures, c'est que les auteurs sont morts. Donc on a du mal à avoir une, une réponse de leur part, par définition, mais c'est qu'effectivement, sur le déclencheur, est-ce que c'est une idéologie de fond qui a apporté quelque chose? Est-ce que c'est un incident ponctuel? Ou alors, est-ce que c'est quand même, malgré tout, une théorie qui, pour l'instant, n'est pas du tout évoquée, mais sur laquelle il faudra bien s'interroger, et c'est pour ça qu'il y a une exploitation et des téléphones portables et de l'intégralité de son matériel informatique et de toutes ses relations, c'est l'appel de l'extérieur. Il y avait un grand fantasme, il y a une vingtaine d'années, qui s'appelait les cellules dormantes, et on avait l'air de penser que c'était quelque chose qui n'existait plus. Aujourd'hui, tous les dossiers qui sont soit en instruction, soit en audience, il y a aujourd'hui le procès aux assises spéciales de la tentative d'attentat contre Notre-Dame aux bonbonnes de gaz, il y a eu des coup de fil explicite, à l'époque depuis la Syrie, c'était Rachid Kassim, l'un des djihadistes français les plus célèbres, qui télécommandait comme ça des jeunes femmes. Est-ce qu'il y a eu effectivement ce genre de contact possible? Parce que là, tout ce qu'on remet sur la table est effectivement très large, mais reste très flou en raison de l'enquête. Et cette histoire de la mosquée est effectivement très importante. L'histoire de cette relation, Eric en a parlé avec l'épouse, 33 SMS échangés avant le passage à l'acte. Il y a des mystères à creuser et effectivement, il faut, je pense, équilibrer les choses. Et pour le déroulement de l'enquête, il est un peu tôt de savoir quels peuvent être les critères les plus forts aujourd'hui.
Éric Pelletier, l'assaillant a été abattu, donc on ne saura jamais le fond de sa pensée. Pourquoi a-t-il été abattu? Y avait-il pas moyen juste de le blesser? Alors, on a parlé d'un acte d'héroïsme, mais...
Je crois qu'il faut se replacer dans le contexte. On a une scène de crime qui se déroule au premier étage d'abord, dans les conditions qu'on sait maintenant, c'est-à-dire un acharnement, une personne qui court dans les escaliers et qui poignarde deux personnes en descendant et qui va s'avancer, a priori assez lentement, en direction de la sortie, vers le fonctionnaire de police, qui est un jeune fonctionnaire. Il était arrivé 6 jours avant. Il sortait tout juste d'école. Et donc, ce fonctionnaire fait ce qu'on lui a appris dans les écoles. Vous avez face à vous un homme armé d'un couteau qui s'avance et qui est menaçant. J'imagine qu'il devait être plein de sang et il venait, sans doute, ce fonctionnaire de police, de voir ses collègues blessés pour les derniers. Eh bien, il fait les sommations d'usage, la personne s'avance, la personne, ça ce sont les témoignages qui le disent, court vers lui et là encore, il désactive la sûreté de son arme, il appuie sur ce qu'on appelle la queue de détente et au coup par coup vise la partie la plus large du corps puis remonte à la tête comme on apprend dans les écoles de police. Il n'y a pas de discussion. D'autant que, imaginez que cet homme ait été porteur d'une ceinture explosive, vous tentez de l'immobiliser, il a le temps sans doute de déclencher sa ceinture. Donc tout ça, ce sont des choses qui s'apprennent, qui sont codifiées dans les écoles de police et moi, à la place qui est la mienne, je ne vois rien à redire, sinon remarquez l'extraordinaire sang-froid de ce jeune homme qui, à 24 ans, je crois, sorti d'école de police, se retrouve dans cette situation-là.
Voilà, il a été parlé d'un acte d'héroïsme. Il s'appelait Jean-Baptiste Salvin, Clarissa Jean-Philippe ou encore Xavier Jugelet, des victimes du terrorisme qui ont toutes en commun de porter un uniforme. Policiers, militaires, ces dernières années, ils ont été régulièrement la cible d'attentats islamistes, assassinés parce qu'ils représentaient la République française. Laura Rado et Michel Bouilly reviennent sur ces attaques qui ont bouleversé le pays.
Trois visages. Celui des premières victimes de Mohamed Merah. Trois jeunes parachutistes qui avaient choisi de s'engager pour leur pays. Ils sont morts sous les balles du djihadiste à Toulouse et Montauban. En mars 2012, le tueur au scooter sème la terreur en prenant pour cible l'armée avant d'abattre sa folie meurtrière sur l'école juive aux Aratora.
Ces soldats étaient nos soldats. Ces enfants sont nos enfants. Ce tueur n'est pas parvenu à fracturer notre communauté nationale.
L'uniforme dans le viseur des fanatiques. C'est même une consigne directe du groupe État islamique. En septembre 2014, une figure de Daesh appelle à frapper militaires, policiers et gendarmes.
Attaquer, tuer les soldats des tyrans, leurs forces de police et de sécurité, leurs services de renseignement et leurs collaborateurs.
Janvier 2015, une nouvelle série d'attentats. La rédaction de Charlie Hebdo est décimée. Deux policiers sont froidement assassinés et le carnage continue. 24 heures plus tard, une jeune fonctionnaire de police, Clarissa Jean-Philippe, tombe sous les balles d'Amedi Koulibaly, tueur de flics, avant de devenir preneur d'otages à l'hypercacher de Vincennes.
Beaucoup de tristesse et à la fois je salue l'honneur de mes collègues tombés. Voilà. Et tous les policiers.
La police en deuil, la police remerciée, célébrée aussi. Après les attaques, place à l'Union nationale. Les Français témoignent leur soutien aux forces de l'ordre. CRS et policiers sont acclamés dans les rues de Paris. Un an plus tard, la peur monte d'un cran, puisqu'elle s'introduit cette fois dans leur intimité. Un couple de policiers est sauvagement poignardé à son domicile de Magnanville, sous les yeux de leur petit garçon de 3 ans. L'agresseur, déjà condamné pour terrorisme, revendique avoir suivi les ordres de Daesh en prenant pour cible des policiers.
On sait qu'on a des risques dans ce métier, ça on est au courant à la base. On nous le dit, on signe pour ça, on le sait. Maintenant, ce genre de problème, c'est tout nouveau. C'est inédit pour nous.
On accepte les risques de notre métier, mais là, quand ça touche les gens qu'on aime autour de nous, ça devient plus qu'insupportable.
En réponse à l'angoisse grandissante, les policiers obtiennent le droit de porter leur arme en dehors des heures de service. Le terrorisme frappe de nouveau les forces de l'ordre en 2017, 3 jours avant le premier tour de la présidentielle. Sur les Champs-Élysées, un policier est tué, Xavier Jugelet, 2 autres blessés. L'auteur, connu pour son lourd passé judiciaire, avait manifesté son intention de tuer des policiers à peine 3 mois plus tôt. Ce soir-là, il met sa menace à exécution et tire à l'arme lourde sur un fourgon de police.
Le professionnalisme immense, le dévouement, le sens du devoir des policiers ce soir ont évité un carnage sur les Champs-Élysées.
Cette longue série d'attentats a connu un autre rebondissement cette semaine. Cette fois, c'est en plein cœur que les forces de l'ordre ont été touchées, au sein même de la préfecture de police de Paris, et par l'un des leurs.
Alors, question téléspectateurs, police, gendarmerie, sport, santé, éducation, on entend dire que les radicalisés sont partout. Qu'en est-il au juste ? Éric Pelletier.
Je crois qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. On parle déjà de phénomènes extrêmement marginaux, mais qui existent et qui transcendent tous les pans de la société. On voit bien ce qu'a été Al-Qaïda, qui était une sorte de terrorisme pour les élites, j'allais dire. Et Daesh, lorsqu'il a créé son califat en Syrie et en Irak, ou son pseudo-califat, a joué au contraire la plèbe contre les élites, c'est-à-dire... Si vous ne pouvez pas nous rejoindre, si vous ne pouvez pas combattre, au moins combattez les mécréants dans votre propre pays. Et ça, ça a touché un certain nombre de gens, j'y reviens, qui n'étaient pas forcément sensibles à la violence et à l'islam, mais qui se sentaient peut-être en butte à une certaine hostilité, avec la velléité d'agir. Et certains ont pris prétexte de ces appels pour basculer dans le terrorisme. Il ne faut pas se leurrer, ça aussi, ça a existé dans la police. J'ai été très frappé, quand on a travaillé sur cet aspect-là, de voir un peu le profil. Quand vous voyez le profil des personnes qui ont été détectées comme ayant un comportement, on va dire, déviant, vous avez là aucun commissaire, aucun officier. Il s'agit de jeunes gardiens de la paix, pour ceux dont j'ai vu la fiche entrer dans la police dans les années 2000, post-Ben Laden, et qui, au fil du temps, ont eu un comportement de plus en plus radical, en tout cas fondamentaliste. Fondamentaliste ne voulant pas dire violent forcément. Mais en tout cas, c'était une évolution et une modification du comportement, alors même qu'ils avaient intégré volontairement une institution laïque. Et quelle institution laïque, puisque c'était la police. Et beaucoup étaient entrés par la petite porte, par les adjoints de sécurité. C'est des concours internes qui vous permettent de vous mettre le pied à l'étrier. Et finalement, c'est assez à l'image de ce qu'on voit, sans doute,
dans les prétoires. – L'absence de promotion a nourri une part de frustration ?–
Non, pas du tout, je ne dis pas ça. Mais je dis que sociologiquement, on voit peut-être qu'il s'agit là, ceux qui sont les plus touchés par le phénomène de radicalisation, de jeunes gens qui sont entrés dans la police et qui ont pu être sensibles à des discours religieux extrémistes.
– Il y a une part de ressentiment, mais c'est vrai qu'il y a aussi une part d'intérêt pour les métiers de force publique et de police pour les jeunes Français qui voulaient s'engager. Quand on les voit aujourd'hui devant le tribunal, c'est le cas de, dans la bande des Strasbourgeois qui est resté célèbre dans les départs pour Daesh. Il y en avait un qui avait passé un concours pour être justement adjoint de sécurité, un autre qui était...
comment vous l'expliquez alors
qui avait une fascination pour la police municipale, et dans un autre dossier qui était une tentative d'attentat contre une installation militaire, il y a quelqu'un qui venait de quitter de force la marine nationale. Il était surveillant dans un sémaphore, il avait organisé ensuite une tentative d'attentat contre un sémaphore.
Je ne comprends pas.
Comment
quelle
ça s'explique, voilà, comment, c'est s'explique. Comment ça s'explique? Il y a une fascination. Les gens qui veulent prendre les armes par vocation idéologique, utilitaire, par fascination personnelle, bien souvent, ils ont essayé de le faire par des moyens légaux. Ils se voyaient avec une arme. Ils ont ensuite collé une idéologie qui est arrivée à ce moment-là. En 2014, à la création du califat, certains n'étaient pas encore au moment de leur création. Ce qu'il faut souligner, et c'est toujours ça qui est très compliqué à faire comprendre sur ces jeunes djihadistes qu'on voit vivants devant la justice, parce qu'encore une fois, ceux qui sont morts sont ceux qui se sont fait sauter les armes à la main, c'est qu'il y a une multitude de motivations, et effectivement, celle de prendre les armes, quand ils arrivaient à partir en Syrie dans les années 2014, 2015, 2016, ensuite ça s'est tari, ce sont des jeunes qui sont d'une violence terrible, mais d'une fragilité extrême, d'accord, et ils sont prêts à passer d'une succursale à l'autre, d'Al-Qaïda à Daesh, à Jabhat al-Nusra.
Mais derrière, il y a cette fascination pour les armes, un peu comme commune. Dans les jeux vidéo, presque.
Et du fait, en tout cas, pour répondre à votre question, sur cette fascination pour le fait d'appartenir à un corps d'armes.
Peut-être, dans le prolongement de ce qui a été dit, on a parlé tout à l'heure de cette mosquée du Val-d'Oise. Il faudrait qu'on reparle un jour du renseignement territorial qui n'a pas permis peut-être à un moment donné de détecter effectivement cette mosquée, fermeture administrative et le cas échéant de voir qu'effectivement...
Il était sous le coup d'une procédure d'expulsion, l'imam.
Oui, mais de voir qu'il y a aussi un agent du renseignement direction de renseignement de la préfecture de police qui fréquentait cette mosquée. Ensuite, cet individu, il faudrait qu'un jour on se pose la question de savoir pourquoi. C'est un converti. Il s'est converti à 35 ans. Pourquoi il se convertit? Est-ce qu'il se convertit parce qu'il trouve une certaine forme de spiritualité dans l'islam, ou alors il se convertit presque par dépit parce qu'il a le sentiment d'être blâmé ou de ne pas progresser, ce qui semble sortir à un moment donné des interrogatoires qu'il y a eu ici-là. Et ensuite, il y a cette conversion qui dérive vers la radicalisation, vers le salafisme, qui est une autre étape. Et le salafisme, ce n'est pas l'attentat. Le salafisme, ce sont des idées qui, effectivement, sont incompatibles avec notre République et qui, effectivement, rejettent l'autre parce qu'ils considèrent qu'il est dans une forme de repli identitaire. Ça, je pense que c'est important. Et ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très juste. C'est-à-dire que quand on regarde cet individu de 45 ans, il n'est pas dans ce qu'on a l'habitude de voir en termes de jeunes terroristes, ce que dit Luc Latte, environ 26 ou 27 ans. Généralement, effectivement, il y a une certaine forme de fragilité dans ce que vous avez dit. On trouve très peu de commissaires ou de hauts fonctionnaires radicalisés. Et c'est d'une certaine manière la même chose, jeunes de banlieue, qui ne sont pas des caïds. Les caïds ne sont pas radicalisés. En revanche, ceux qui sont, non pas des primo-délinquants, mais qui ont effectué plein de petites peines et qui, à un moment donné, sont perméables, donc fragiles, aux thèses, effectivement, antisémites, complotistes, et ensuite qui deviennent des individus radicalisés.
Avec cette fascination des armes, Mera qui a tenté, voulu intégrer la Légion étrangère.
Alors, il y a une dimension également politique dans cette affaire, avec un Christophe Castaner qui, première réaction au sujet de cet assaillant, dit qu'il n'avait jamais présenté de difficultés comportementales, ni le moindre signe d'alerte. Avec le recul, alors les politiques, ce matin, lui tombent dessus en disant soit vous êtes incompétent et mal renseigné, soit vous avez cherché à dissimuler. C'est vrai que ça peut paraître curieux, cette précipitation, et même Sibeth Ndiaye qui a dit la même chose, mais ne voyez pas des terroristes partout. Le vendredi matin, on était là à minimiser cette affaire.
C'est vrai, moi c'est un peu le sentiment que j'ai eu en traitant ce dossier. C'est une erreur de la part de Christophe Castaner, à minima une erreur de communication. Reste à savoir pourquoi il l'a fait. Est-ce qu'il est mal informé? Vous savez qu'on est dans une logique française où il y a Paris et le reste du monde. Paris, pour le monde policier, c'est la préfecture de police, c'est le bastion, c'est l'enceinte. Et au sein de cette enceinte, vous avez cette direction du renseignement. Cette direction du renseignement, elle rend compte non pas à Christophe Castaner, mais au préfet de police. C'est-à-dire qu'il y a un échelon. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qui est remonté de la préfecture de police, qui est sur l'île de la Cité, de l'autre côté de la Seine, en l'occurrence au ministère de l'Intérieur. Je ne sais pas. En tout cas, en faisant cette déclaration prématurée, Christophe Castaner s'expose.
Et fausse.
elle est fausse, puisqu'on sait que depuis 2009, il y a eu un incident dans sa vie personnelle et dans sa vie privée à cet agent administratif. Donc ça, c'est connu, c'est acté, c'est documenté. Ses collègues se sont plaints. Alors aujourd'hui, on ne retrouve pas, semble-t-il, ces signalements. Mais nous, très vite, on a un bruit de fond, un écho, nous, journalistes, et on sait que cet agent administratif posait des problèmes de comportement, dès le début. Que le ministre de l'Intérieur ne le sache pas, c'est un problème. A-t-il été mal informé ou a-t-il cherché à dissimuler ou au moins à décaler l'annonce dans le temps de la déflagration que serait une attaque terroriste au sein de la préfecture de police perpétrée par un des leurs.
Mais Mathieu Delahousse, après on s'étonne du discrédit de la parole politique quand on voit qu'on a eu l'impression vendredi matin de minimiser cette affaire. Ça va accentuer ce soupçon de dissimulation.
Le soupçon, il est sans doute général, mais face au terrorisme, il y a quand même une grande particularité, c'est que la communication fait partie du terrorisme, Daesh l'a bien compris, mais la lutte contre le terrorisme passe aussi par la communication. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est le grand défi qu'a dû remplir aujourd'hui le procureur national antiterroriste, c'est de prendre la parole comme le faisait le procureur Molins. Mais c'est vrai
que jouer carte sur table.
Information sera aujourd'hui retransmise, amplifiée par les réseaux sociaux, vérifiée. Et il s'est passé, l'erreur que vous évoquez sur Christophe Castaner a une conséquence terrifiante en termes d'information aujourd'hui et de crédit d'information, c'est que chacun aujourd'hui s'est emparé de cette information avec finalement, et on l'a vu sur les réseaux sociaux de façon absolument terrifiante, deux camps, ceux qui voulaient absolument et sans entendre la moindre vérité que ce soit un acte isolé d'un illuminé, et une autre partie qui voulait sans aucun argument entendre immédiatement que c'était un acte prémédité extrêmement terroriste et extrêmement dangereux.
Sauf que ce soir, ils peuvent dire, j'avais raison.
Non, parce que la difficulté, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec la conférence de presse précise, exhaustive du procureur national antiterroriste, c'est de donner ces informations. Aujourd'hui, il y a un secret de l'enquête qui existe toujours, il y a un secret de l'instruction qui existe toujours. On n'est plus dedans. Aujourd'hui, on est dans des informations d'utilité publique, parce que le terrorisme, c'est ça aussi, c'est de provoquer la terreur, et la mauvaise information, elle provoque la terreur.
Béatrice Brugère, quand on voit que le patron de la police ne savait pas vendredi matin ce qui se passait et n'avait pas les infos, les policiers ont peur. Il paraît que certains rentrent chez eux le soir en employant des chemins différents chaque jour, éventuellement pour ne pas être repérés. Maintenant, on se dit d'autant que peut-être les adresses personnelles des policiers circulent sur Internet, puisque cet assaillant avait accès à ce type d'informations.
Oui, alors deux choses. Je pense que d'abord que les policiers aient peur. Alors, je ne sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, c'est pas du tout nouveau. Hein. On a quand même eu une affaire, l'affaire de Magnanville qui était absolument terrifiante, hein, puisque ça avait été aussi une scène épouvantable au domicile, donc suivie. Donc ça, je crois que ça a laissé des traces hein, quand même dans les mémoires des policiers. Donc ça va renvoyer encore, je pense, cette affaire-là à l'affaire de Magnanville. Ça, c'est clair. Et ce que je rappelle aussi, c'est que la veille, les policiers avaient déjà manifesté une exaspération totale dans leurs conditions de travail, etc. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, l'état, j'allais dire, de la police est compliqué. Et c'est pour ça, là, je rebondis sur ce que vous venez de dire, que la communication est encore beaucoup plus, doit être encore plus dosée, avec beaucoup d'intelligence et de vérité. Parce que eux aussi, en interne, ils sont très sensibles. Alors, si on renvoie que leur ministre est mal informé, moi, je ne sais pas s'il était mal informé, hein, j'entends ce que vous dites. Peut-être que c'est aussi une tactique de communication d'avoir communiqué comme ça. On le saura sans doute bientôt. Mais dans un cas, s'il est mal informé, c'est un problème. S'il fait une communication trop rapide, c'est aussi un problème. Et ça pose sans doute la question, parce que je rejoins ce que vient de dire Mathieu Delahousse, qui est tout à fait juste. La communication, c'est un élément, mais capital et stratégique dans la lutte contre le terrorisme. Et il va peut-être falloir penser aussi à prendre du temps et à laisser le nouveau PNAT prendre cette communication et la penser, cette communication. Parce que je crois que là, il y a un vrai défi pour la justice, c'est de penser cette communication. Voilà.
Alors, aucune revendication pour l'instant de cet attentat, notamment de la part de l'État islamique. Si l'organisation n'a plus de territoire en Irak et en Syrie, elle n'a pas pour autant disparu. Cet été, un rapport du Pentagone soulignait même que Daesh était en train de se renforcer. 14 à 18 000 combattants seraient toujours actifs. Émilien David, Romain Besnenou et Stéphane Lopez.
C'est une traque sans fin pour les forces irakiennes. Cet homme à terre est suspecté d'avoir aidé les combattants de l'État islamique. Ce berger transporte dans son camion des vivres, peut-être un support logistique pour les djihadistes.
Mais tu fais quoi avec tout ça?
Mais c'est seulement pour moi.
L'explication ne tient pas la route pour les militaires, convaincus que le suspect s'est débarrassé de son téléphone avant d'être contrôlé.
Voilà. Je te jure que j'ai pas de téléphone.
Ah, c'est quoi ça alors?
Ces écouteurs, c'est peut-être ceux de ma tante.
En fait, on a trouvé des cartes SIM jetées plus loin.
Le berger est immédiatement arrêté.
Je vous jure que je ne mens pas.
Le long combat contre Daesh continue. Car malgré sa déroute militaire, l'État islamique est encore actif dans cette région. Il serait même en train de renaître de ses cendres selon un rapport du Pentagone publié en août dernier.
Même s'il a perdu son califat territorial, l'État islamique en Irak et en Syrie a renforcé ses capacités insurrectionnelles en Irak et a repris ses activités en Syrie.
Depuis la chute de Barouz, Daesh ne contrôle plus aucun territoire mais bénéficie encore de soutien dans ses zones ici en rouge, en Syrie et en Irak, et disposerait encore de 14 à 18 000 combattants. Des djihadistes qui gardent leur capacité de nuisance. Ce chef de tribu en aurait fait les frais. Il a perdu la moitié de sa récolte de blé, incendiée en pleine nuit.
Bien sûr que c'est Daesh. Ils continuent leurs actes de sabotage et de destruction. Ils se vengent de moi parce que je soutiens les forces armées irakiennes.
À la tête de ces combattants islamiques, Abou Bakar el-Baghdadi, qui poursuit ses appels à agir. Le 16 septembre dernier, sur le réseau Telegram, il incitait encore une fois ses troupes à libérer les djihadistes détenus.
Faites de votre mieux pour sauver vos frères et vos sœurs et forcer les murailles. Comment un musulman peut-il continuer de vivre alors que des femmes musulmanes croupissent dans les camps de la dispersion et les prisons de l'humiliation?
Le numéro 1 de Daesh fait référence à ces camps de déplacés où les familles de djihadistes sont entassées depuis la chute de l'État islamique. Al-Hol est le plus grand d'entre eux. 70 000 personnes vivent ici. Les conditions de vie sont très difficiles. L'idéologie islamique reste profondément ancrée.
Al-Baghdadi nous a demandé de ne pas enlever le niqab et de protéger la religion et l'honneur. Nous allons tenir notre promesse. Nous ne sommes venus au camp que pour suivre ses ordres.
Une poudrière dans laquelle les préceptes de l'État islamique continuent d'être enseignés aux enfants. Et dans les anciens fiefs de l'organisation, comme ici à Mossoul, cette vision de l'islam perdure encore. Ces enfants ont tous vécu sous la domination de Daesh et son islamisme radical.
On prend la main à sa droite et on dit son prénom. Allez, dis-lui ton prénom.
Dans cette association, des psychologues tentent de déconstruire l'idéologie de l'État islamique auprès d'enfants qui vivent au quotidien avec le traumatisme de la guerre. Certains d'entre eux ont perdu un de leurs parents parce qu'il était combattant de Daesh.
Ces enfants, il faut les soigner aujourd'hui parce que quand ils auront 15 ans, 16 ans, ce sera beaucoup plus difficile de les contrôler. C'est comme il est arrivé en 2003, il y avait les combattants, les petits-enfants de Qaïda qui sont devenus plus tard des combattants de Daesh. Là, on a vraiment peur. Si on ne soigne pas ces enfants aujourd'hui, en 2019, peut-être en 2025, ils seront les combattants de notre mouvement.
Daesh disposerait de ressources financières importantes pour poursuivre sa guerre. Selon l'ONU, sa fortune s'établirait entre 50 et 300 millions de dollars.
Question téléspectateur. Faut-il s'attendre à une recrudescence des attentats terroristes en France? Driss Aït Youssef, quand on voit ce camp de Al-Hol, là où il y a beaucoup de francophones d'ailleurs qui seraient des terroristes en puissance qui pourraient revenir?
Alors des terroristes je ne sais pas, mais des familles oui, avec des enfants. C'est un camp qui est, on a dit, 70 000 personnes à peu près. C'est très problématique parce que vous avez des familles syriennes et irakiennes, beaucoup de familles syriennes, et les chefs religieux refusent de reprendre ces familles au motif que ils ont fait allégeance à l'État islamique, comme l'a dit cette femme-là, et qu'ils n'avaient plus vocation à revenir dans leur village d'origine. Donc c'est très particulier. Vous avez aussi des enfants, hein, de familles de djihadistes, donc française. Et donc, ils sont presque à l'abandon. Et le monsieur qu'on a écouté dit tout à fait juste en disant « Mais les gamins qu'on a aujourd'hui, si on ne les prend pas en charge, bah, dans 10 ans, dans 15 ans, ça deviendra des terroristes en puissance. » Donc, il y a une urgence absolue, effectivement, à traiter ce camp. Dans le même temps…
Combien de francophones et qu'en faire alors?
S'agissant des hommes qui ont fait le choix de quitter notre territoire pour aller rejoindre une organisation terroriste, etc. Eh ben, je vais vous dire, pour la plupart d'entre eux, ils sont identifiés, il y en a qui sont arrêtés, qui ont été transférés en Irak et qui seront jugés et condamnés en Irak selon la loi irakienne, parce qu'ils ont commis des crimes là-bas. Les familles, c'est particulier. Vous avez des enfants qui n'ont pas forcément demandé à aller là-bas, et puis vous avez des mamans, en fonction de leur situation, est-ce qu'elles ont combattu, elles seront jugées là-bas. Si elles n'ont pas combattu et qu'à un moment donné, elles font le choix, à un moment donné, de vouloir accompagner leurs enfants dans une certaine forme de repentance, et de les accompagner, bah peut-être qu'à un moment donné, il faut avoir une vraie réflexion là-dessus. Donc, mais c'est un site qui est très particulier.
Mais Mathieu Delahousse, vous comprenez, il y a beaucoup de réticence vis-à-vis de ce qu'on appelle les revenants, à leur dire, bah oui, revenez en France, etc.
Alors là, en plus, ce sont les revenants qui sont dans une situation particulière, puisque ce sont effectivement des gens qui sont dans un camp humanitaire. Il ne faut pas oublier que c'est une notion humanitaire et que la France a une position très claire. Elle n'est pas favorable au retour des majeurs, en tout cas, du côté du Quai d'Orsay, de l'Élysée, ce n'est pas le cas. Les juges ont une vision un peu plus nuancée et les retours, pour l'instant, ont été très ponctuels.
Mais ils pourraient revenir d'une façon ou d'une autre.
Le Quai d'Orsay a monté des opérations qui sont des rapatriements humanitaires, médicaux et diplomatique, au cas par cas, effectivement. Mais pour les enfants, et le problème, c'est qu'effectivement, les femmes ne doivent pas être, selon la doctrine française, rapatriées. Elles ne souhaitent, elles, pas être séparées de leurs enfants. Ouais. Donc c'est un casse-tête qui mérite une émission tout entière.
Est-ce que, de toute façon, il n'y a pas le risque qu'ils finissent par s'échapper et revenir en France d'une façon ou d'une autre, la haine au ventre?
Puisque vous avez des djihadistes qui sont rapatriés via la Turquie, puisqu'il y a une convention entre la Turquie et la France, où dès qu'on a des djihadistes ou femmes de djihadistes, on est djihadistes ou familles de djihadistes, ils sont immédiatement rapatriés en France, est pris en charge par les services de renseignement, la police judiciaire, font l'objet d'une judiciarisation. Donc ces individus qui sont pour un certain nombre d'entre détenus ou des familles, à un moment donné, ils quitteront ce camp, et comme ils ont la nationalité française, ils ont la possibilité de revenir par leurs propres moyens en France. Donc c'est une question, à un moment donné, de temps, je l'ai dit, la question c'est pas de savoir est-ce qu'ils vont revenir ou pas, la question c'est de savoir quand. Est-ce que nous serons prêts à accueillir des enfants? Ça c'est aussi une question qu'il faut se poser en responsable politique.
Bon, cet appel d'Al-Baghdadi, là, dont on vient de voir, là, Al-Baghdadi, le chef de Daesh, qui, le 16 septembre, a refait un appel pour poursuivre le combat. Deux questions, est-ce qu'il est entendu et est-ce qu'il est insaisissable, cet Al-Baghdadi, là? Personne, aucune armée n'arrive à le localiser et à l'attraper?
Alors, et les Américains et les forces de la coalition s'intéressent à Baghdadi. Ouais. C'est un sujet qui dure, effectivement, depuis des mois. Aujourd'hui, le conflit en Syrie, il va continuer. Hein. Je pense que personne n'a d'illusion là-dessus. Notre problématique sur l'antiterrorisme, c'est de savoir quelles sont les notions de vase communicant, en quelque sorte. Ce qui est certain, c'est que l'appareil de propagande et d'attirance de l'État islamique a été anéanti, que les réseaux ont été coupés. Il n'y a plus de jeunes Français aujourd'hui qui partent en Syrie. On ne pouvait pas dire la même chose il y a deux ans, hein, quand même. Et en réalité, la propagande également a été coupée. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres réseaux de communication? L'histoire générale et l'histoire du terrorisme a montré que les succursales successives pouvaient se monter et faire de nouveaux appels. Pour l'instant, c'est un appel très général, ce n'était pas un appel opérationnel. Est-ce que des voix peuvent se faire entendre auprès de cellules dormantes, de personnes radicalisées ici? Bien fort serait celui qui pourrait le dire aujourd'hui. Là, je pense qu'il faut être à la fois très prudent, d'accord, et très modeste par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années.
Béatrice Bruchère, oui.
Oui, je nuancerai quelque chose, je suis d'accord, hein, sur l'essentiel, mais sur l'appareil de propagande, je pense qu'il n'est pas totalement coupé, parce que les vidéos qui ont été faites justement là, pardon, à la rentrée, sont extrêmement relayées, au contraire, sur les réseaux sociaux et surtout dans les prisons françaises. Enfin, je veux dire, ces vidéos, elles ont un impact qu'on ne soupçonne pas, et elles sont très claires. C'est-à-dire que vous avez mis tout à l'heure la phrase exacte, mais il appelle à une forme d'insurrection ou de résistance dans les prisons. Alors, on pense évidemment aux camps en Syrie, etc., mais les prisons, pour ceux qui sont, et on en a beaucoup aujourd'hui dans nos prisons, hein, on en a plus de 500, hein, on le sait, et je ne parle pas de ceux qui sont radicalisés, je parle de ceux qui sont identifiés, ils sont en communication, ils sont en connexion avec ces vidéos, et on ne peut pas dire aujourd'hui que ça n'a pas d'impact. On ne sait pas, et ça pourra peut-être avoir un impact, d'autant plus que les prisons sont sous grande tension pour d'autres raisons. Et donc, ça, c'est un enjeu de demain avec, en effet, les jeunes qui arrivent, les revenants et toutes les cellules que l'on
connaît. Donc Daesh a toujours ce pouvoir de nuisance et cette propagande qui sous-tend.
Oui, c'est pour ça que je ne suis pas... Voilà.
Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Oui, monsieur. Voilà. Un terroriste infiltré dans la préfecture de police de Paris, comment est-ce possible ? Éric Pelletier, c'est la sidération qui domine.
Ah, évidemment, là, au fil des heures, on découvre des pans entiers qui laissent à penser qu'on n'a pas pris en compte des choses qui étaient remarquées par les collègues de cet agent administratif. Et je me pose évidemment la même question que notre téléspectateur, et je pense que les autorités aujourd'hui se posent la même question. Quid des signalements ? Où sont-ils ? Qu'a-t-on fait ? Et en réalité, on a l'impression qu'on n'a rien fait. Alors même que dans d'autres sphères qui sont beaucoup moins sensibles, je parlais de l'administration, par exemple, et de l'éducation nationale, on aurait pris des mesures contre ce genre de comportement.
Les syndicats accusent, syndicats qui disent la préfecture de police a essayé d'occulter le processus de radicalisation.
Il faudra le voir, c'est ce que disent un certain nombre de fonctionnaires de police qui disent qu'ils ont eu du mal à s'exprimer et même à faire valoir.
Pourquoi alors ? C'est pas possible au sein de chez nous qu'il y ait des brebis galeuses ?
C'est difficile à admettre. Il faut d'abord regarder ce qui s'est passé au niveau mondial. Des personnes djihadistes qui passent à l'acte, alors même qu'elles étaient dans une institution comme la Défense, il n'y en a pas tant que ça. La CIA, le poste de la CIA en 2009 au sud de l'Afghanistan a été détruit par une source qui a été retournée et c'était un traumatisme.
Mais des actions... Par un membre de la CIA donc, qui a été retourné.
Non, par un agent local recruté par la CIA et qui s'est fait exploser au sein de l'équipe de la CIA. Une dizaine de morts.
Bon, c'était un agent triple, absolument.
Là, aujourd'hui, on a chez nous 4 morts, et ces 4 morts, plus les blessés, ont été commis par un agent administratif qui était dans la sphère du renseignement.
Comment a-t-il pu entrer avec des couteaux dans la préfecture ? C'est vrai qu'on a beaucoup dit au début que c'était des couteaux céramiques, mais le procureur a certifié que ce sont des couteaux métalliques. 2 couteaux, un couteau à 8 et un couteau métallique, donc avec une lame de 20 cm.
Ce sera l'une des questions de l'enquête. Quand on rentre aujourd'hui à la préfecture de police de Paris, il y a une entrée, entre guillemets, professionnelle, une entrée publique. Tout le monde est fouillé. Le public est évidemment plus fouillé. Le problème du terroriste, c'est que c'est une vigilance de tous les instants. Et effectivement, ce monsieur qui travaille depuis 2003, que tout le monde connaît manifestement, rentre avec un armement qui n'est pas détecté. Donc il y a, hélas, ce soir... beaucoup de failles qui sont mises en avant, cela en fait partie.
Moi, je pense surtout qu'avec une carte de police, on rentre sans être fouillé.
Il suffit d'avoir... Il n'y a pas un portique quand même.
Non, vous passez pas par le... Tout sonne parce qu'ils sont armés et lui est administratif.
Mais vous rentrez avec votre carte de police,
on sonne et on passe.
Oui, mais c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faudra qu'il y ait un avant et un après sur toutes ces zones de vigilance. Là, il va falloir en tirer vraiment toutes les conséquences.
Mais c'est aussi l'état de la menace aujourd'hui. Quand on dit qu'on n'est plus sur une menace exogène parce qu'on a vaincu militairement l'État islamique, même s'il y a une certaine forme de résurgence, n'empêche que sur le plan idéologique, je me garderais bien de dire qu'on a gagné. Non. Quand on regarde l'état de nos prisons, c'est un individu qui s'est a priori pas rendu dans un théâtre d'opérations terroristes extérieures et pour autant, il a reproduit le même mode opératoire qu'une organisation terroriste, comme s'il aurait pu être, j'ai envie de dire, téléguidé depuis la Syrie ou l'Irak. Donc c'est l'état de la menace aujourd'hui.
Comment faire confiance aujourd'hui à nos services de renseignement ? En termes de réputation, c'est pas terrible, non ? De ne pas avoir vu en son sein, à la direction des renseignements, qu'il y avait un terroriste en puissance.
D'abord, il faut savoir faire face à l'événement, c'est-à-dire admettre ce qui s'est passé. On n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'il y a encore des non-dits, des rumeurs qui circulent. Aujourd'hui, et fort heureusement, le procureur national antiterroriste a acté des faits qui, jusqu'à présent, étaient parfois même contestés par les autorités policières. Donc aujourd'hui, on a des faits, on est passé au travers d'un agent double pour reprendre le terme.
Mais comment faire confiance à ces renseignements qui ne savent même pas reconnaître un agent...
Regardons les choses dans leur globalité. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à partir de ce drame terrible, il y aura un avant, il y aura un après, c'est certain. Regardons ce qui se fait à côté. C'est-à-dire, là aussi, moi j'ai écrit un ouvrage assez critique sur la manière dont on abordait le terrorisme au sein des services de renseignement. Je mesure l'immensité de la tâche qui est la leur. L'immensité de la tâche. Donc, je pense qu'on a des services qui sont performants, mais des failles qu'il va falloir au plus vite combler.
L'assaillant à son travail, a-t-il pu prévenir des fichiers S, supprimer des fichiers S, des bases de données ? Puisqu'il avait, il était informaticien.
Alors, il y a beaucoup de confusion dans cette question, parce qu'hélas, les fichiers S, on le rappelle à chaque fois, n'est pas forcément un outil qui est utilisé dans ce cadre-là en particulier. ne faut pas faire de spéculation inutile et je pense qu'il ne faut pas paniquer non plus les populations.
Non, mais il avait des infos qu'il a pu utiliser.
Alors, il avait accès potentiellement à des informations sur un système informatique, parce qu'il avait un terminal. C'était quand même un fonctionnaire de catégorie C chargé de la maintenance. Il n'était pas.
Catégorie C, c'est le premier échelon.
Oui, mais ce n'était pas lui qui était chargé de mettre les classifications, etc. Ce n'était pas lui qui était chargé de gérer ce qu'on appelle le portefeuille des individus surveillés. Mais c'est effectivement ça aussi une enquête qui est posée, sachant que dans d'autres dossiers. Ça a été raconté, des fichiers confidentiels ont circulé, c'est notamment déroulé après l'affaire de Magnanville.
Alors, oui, Youssef.
Il y a deux éléments. Lorsqu'on vous donne, par exemple, cette habilitation secret défense, vous avez toujours le terme « besoin d'en connaître », c'est-à-dire que vous travaillez sur des informations qui concernent votre dossier en particulier. Il faudrait vérifier si lui, avec des codes administrateurs, pouvait visionner des documents et pouvait, le cas échéant, les transmettre. Je rappelle qu'on a aujourd'hui des systèmes d'information, notamment la DGSI et autres, où vous pouvez avoir vous avez des fonctionnaires qui, lorsqu'ils consultent d'autres dossiers sur lesquels ils n'ont pas consulté, ils perdent leur habilitation. Et vous avez de la jurisprudence administrative qui retoque systématiquement les fonctionnaires quand ils font appel de leur décision au motif qu'on leur a supprimé cet accès. Donc je suis plutôt assez vigilant par rapport à ça. Il y a des systèmes d'alarme aujourd'hui, il y a des algorithmes qui font qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec les systèmes d'information.
Alors comment devient-on un agent habilité secret défense? Quelles enquêtes sont effectuées et sont-elles renouvelées fréquemment?
Alors, donc, on l'a expliqué, vous avez trois types d'habilitation, confidentiel défense, secret défense et très secret défense. Et donc, on vous l'attribue entre 5, 7 ans, 10 ans en fonction de l'habilitation. Et donc, quand on vous la donne, c'est parce que vous avez une fonction particulière qui nécessite cette habilitation pour manipuler de la donnée. C'est quoi la donnée? Ça peut être sur des sujets politiques, militaires, scientifiques, industriels. Et donc, vous avez besoin de connaître de l'information.
On enquête sur votre parcours, sur qui vous êtes, sur les gens que vous fréquentez.
Vous avez une enquête de moralité en fonction de l'habilitation. Vous avez une enquête de moralité. Et lorsque l'habilitation est poussée, lorsque vous travaillez sur des dossiers très particuliers, l'enquête administrative peut aller très loin, c'est-à-dire de la filature, c'est-à-dire mettre votre environnement sur écoute pour bien vérifier que vous ne présentez pas ce qu'on appelle une vulnérabilité. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous pourriez être corrompu par une puissance ou par une organisation étrangère. De ce point de vue, il y a environ 400 000 personnes en France qui ont une habilitation, qui ont la possibilité de consulter des documents. C'est partout, c'est dans des universités, c'est dans des administrations. C'est même dans des entreprises privées, industrielles.
Si son épouse savait, que risque-t-elle, Éric Pelletier?
On verra d'abord ce que donne la garde à vue. Il reste à peu près 48 heures de garde à vue. Elle devra s'expliquer. Mais l'enquête est en cours. L'assaillant a été tué, donc bien évidemment, il ne peut plus être poursuivi. En revanche, elle peut être poursuivie pour complicité, voire
non-dénonciation.
Complicité par passivité.
Eh bien voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Merci de l'avoir suivi. Lundi, vous retrouverez Caroline Roux pour un nouveau C'est dans l'air. Demain, C'est politique. Karim Rissouli recevra l'écrivaine Marie Darieux-Sec. Bonne soirée sur France 5, vous restez avec nous à suivre C'est l'hebdo.